Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 192, ici Richard Delorme. Le 15 juillet, la C2Pix s'est élancée d'une zone maudite, la Bretagne, pour traverser la France sur 2000 km et finalement rejoindre les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, je reçois l'organisateur de cette mascarade, Frédéric Bernard, également organisateur de la Gravel Trobraise, mais également Jean Reguelet qui nous fait l'honneur de concéder quelques minutes de son précieux temps. Marie Geste, déjà 12e de la dernière GTB pour son premier vrai ultra. Et enfin, Cécile Scotto, que je ne connais pas. Mais Fred m'a dit qu'elle fait du VTT. Alors, ouvrez les guillemets. Elle fait du VTT, mais roule qu'avec des mecs, sinon elle se fait chier. Alors, j'ai cherché un tout petit peu et j'ai découvert que Cécile s'est préparée à la C2Pix. Bah ouais, non, mais je ne mens pas. Je ne mens pas. Pas à chaque fois. En courant les championnats d'Europe VTT marathon à l'ESSAC, donc le fameux Roc Lessaguet, et a terminé 5e Master 35, 13e Stratch Master et 2e Française. Mais également, pour ceux que ça intéresse, maître de conférence à l'université de Poitiers et enseigne psychologie de la motricité, déficience sensorielle, psychologie de la motricité, et enfin, et ça je pense que c'est le plus facile, traitement de l'image. Est-ce que j'ai bon ?
Oui.
C'est bien ça ?
Oui.
Bah,
oui,
ça y est, regardez, on a déjà perdu Fred. On a déjà perdu l'image. Est-ce qu'on a perdu le son ?
Non, c'est bon, je suis là.
Vous m'entendez pas ?
Très bien. Alors, bon, ça y est, il n'y a plus de lumière dans le Loir-et-Cher. Alors,
non, je suis là, moi,
en fait,
je
n'ai pas terminé. Vous qui écoutez ce podcast depuis bien longtemps, vous savez que j'aime préparer les épisodes jusqu'à l'obsession et en scénarisant les moindres détails pour réussir à restituer une ambiance bien bordélique, nettement plus proche, je pense, de la vie quotidienne. Donc aujourd'hui, j'avoue, j'ai piqué toutes les questions préparées par Fred, qui, en organisateur consciencieux, s'est enfin sorti les doigts du cul pour écrire un paragraphe. Donc, il me faut pour chacun d'entre vous une présentation générale et je propose que l'on commence par Cécile, que l'on ne connaît pas et qui est tout à fait inconnue, par les auditeurs à la fois du podcast mais par les membres de Bistro Gravier maintenant sur Discord. Voilà, maintenant vous savez tout. Cécile, c'est à toi.
Ben écoute, merci à toi. Je pense que tu m'as déjà pas mal décrite finalement puisque effectivement je fais du VTT. VTT, pas trop de route, voire même quasiment pas. Et effectivement, je roule en compétition plutôt au marathon. L'ultra distance, c'est vraiment une découverte pour moi. J'ai jamais fait avant. Et puis, quoi d'autre ? Bah, mon métier, tu l'as déjà défini. Je vis dans la région de Poitiers, donc pas très loin de la Bretagne, mais quand même.
Ouais, mais quand même à bonne distance pour pas être trop influencé.
C'est ça. Et puis quoi d'autre ? Bah, j'ai 37 ans. Et puis j'ai deux enfants aussi de 8 et 11 ans.
Réfléchis bien quand même. Hein, avant
ah
de
bah,
faire
ça change
enfants.
Tout le temps en plus. Ils grandissent. Pour ajouter un assez régulièrement, du coup, je calcule.
Ouais, mais pour ça, il y a la dénutrition. Ça les fait grandir moins vite.
Oui, j'y ai pensé.
Demande à Marie. C'est ce que fait Marie avec son fils. Hein. Elle le nourrit plus. Comme ça, il reste tout petit. Marie, ton premier ultra, à toi maintenant. Marie, qui es-tu ?
Eh ben moi, je viens de prendre 40 ans. Je suis de la région de Thouars, dans le nord des Deux-Sèvres, à une heure de Poitiers. Ouais, ça fait rêver, je sais.
Oh, putain.
Mais ça passe sur la trace de la C2Pix, kilomètre 750, mais je crois que c'est le pire endroit de la trace, en fait. Le reste est beau, sauf ce coin-là. Donc moi je viens Pas spécialement du vélo, j'ai fait plusieurs sports. Ces derniers temps, c'était plutôt du trail, un petit peu de triathlon, et je fais du gravel depuis 3 ans maintenant, avec une attirance pour effectivement les longues distances. Première expérience l'année dernière sur la Gravienne 860, et une autre expérience cette année sur la GTB qui s'est bien passée. C'était mon objectif de l'année, donc je me suis dit pourquoi pas continuer, pourquoi pas se lancer sur la Citypique, une course qui me faisait rêver par son tracé depuis longtemps. Et du coup, bah, j'ai commencé le VTT au mois de juin. Voilà.
Il faut le préciser quand même, après de nombreuses tergiversations, de nombreuses discussions pour comment adapter ton VTT, est-ce que finalement tu prends ton gravel et est-ce que ça passe en pneu de 40? Et après qu'on ait longuement discuté, et bah, tu as un petit peu modifié, fait adapter ton VTT pour le rendre un petit peu plus adapté à ce type d'épreuve, mais on en reparlera parce qu'il a également été modifié en cours de route. C'est
C'est
ça,
ça.
voilà. Bon, Jean, vous le connaissez parce que j'avais déjà consacré un épisode à Jean, suite à sa brillante quatrième ou cinquième place sur la Highland Trail 550 miles. Et aujourd'hui, bah, qui nous rejoint pour la Citypique.
Pour le
Qu'est-ce que tu
débrief.
as ajouté, Jean? Qu'est-ce que tu as ajouté sur ta personne, Jean? Qu'est-ce qui s'est passé
Alors.
depuis bientôt 2 ans? Non, un an?
Wow,
C'était il y a un an.
un an, la Highland
Un an,
Trail, c'est
c'était
un an.
l'année dernière, ouais.
Alors, je corrige juste mon pseudo sur les réseaux, c'est Télégore, mais mon nom, c'est Rogelé, pas Rogelé. Donc, le G se prononce bien G, Richard. Bah, enchanté d'être là. Moi, je viens plutôt du vélo. J'ai toujours été un grand passionné de vélo dans toutes ses pratiques. J'admire les gens qui se lancent là, sur la Citypique après 6 mois de VTT. Bravo, bravo Marie.
C'est clair.
Non, non, pas après 6 mois, après 6 jours.
Ou 6 jours, 6 jours, ouais.
Ouais.
Bon, bah, la prise en main au moins elle est radicale et maintenant tu peux dire que tu sais faire du VTT. C'est très
Ouais.
bien. Et donc j'ai fait quelques ultras. Je suis tombé sur ce genre de challenge il y a 6 ans maintenant sur la deuxième édition de la French Divide. Et puis bah à chaque fois on se dit qu'on recommencera pas et on recommence. Bon là je suis dans ma phase où je me dis que je recommencerai pas, donc c'est plutôt officiel, je pense qu'on peut le dire. Je ne me réinscrirai pas de sitôt à des épreuves aussi longues, même si je continuerai les aventures et certainement plus les trips entre les voyages entre copains et en solo, etc. Mais ce genre d'épreuve est mentalement extrêmement exténuante pour moi. Donc c'était le challenge de cette année. Un peu comme Marie, je me suis inscrit parce que je rêvais de la trace depuis très très longtemps. Contrairement à une French Divide qui passe pas très loin de chez moi puisque j'habite Amiens, ça pouvait me donner l'opportunité de découvrir la Bretagne à vélo et puis traverser ce long plat pays entre Nantes et la Creuse qui passe par Poitiers. Et puis on s'est bien marré quoi. Donc moi le vélo longue distance je connais depuis quelques temps. Je m'en suis plutôt très bien sorti cette année. C'était une bonne surprise. Bien continué, j'ai eu un bon rythme jusqu'au bout. On a eu une année un peu spéciale avec une météo plutôt favorable. Donc voilà, très très bonne expérience pour moi et très bonne rigolade avec Fred qui nous a sorti quelques secteurs un peu immangeables, comme les organisateurs ont l'habitude sur ce genre de tracé. Donc ça n'a pas démérité, c'était très bien.
Bien, bah maintenant, on va laisser la parole à Fred, hein, parce que il est 16h43. Fred, je te donne 4 minutes, pas une de plus,
Non,
je
mais
te
j'ai pas
préviens.
grand-chose. J'ai pas
À
grand-chose à
47, je
dire.
te coupe.
Moi, je m'appelle Fred. Je viens de passer un an de plus il y a très peu de temps. Je vous dirai pas mon âge. Voilà, ça se dit plus à partir d'un certain âge. Je fais du vélo depuis que j'ai 14 ans, essentiellement du VTT, jusqu'à mes 20-21 ans. Et après, je me suis mis un peu à tout le type de vélo. Donc, je fais du vélo au sens général. Voilà. Et j'organise, depuis que je suis en Bretagne, je suis arrivé en Bretagne en 2016, j'organise depuis 2018 des événements essentiellement bikepacking. Bikepacking tout terrain, voilà, notamment la Gravel Trop Braise, la Sea to Peak. Je me dis toujours que j'arrête et j'ai toujours une idée à la con derrière, j'ai encore une idée à la con pour l'année prochaine, donc voilà, pas grand chose à dire de plus. J'ai fait quelques épreuves longue distance parce que si on organise, on doit pratiquer aussi, quoi. J'ai fait deux French Divide, donc une French Divide et demi, et puis d'autres petits événements, voilà, gravel ou bikepacking. Pas grand chose à dire de plus. Voilà. T'as vu, c'est court, hein. Je sais me.
Putain. Ouais.
Les gens n'ont rien à foutre de moi. Ils veulent entendre Marie, mon grand Cécile, et puis
genre. Mais t'as rien, ça n'a rien à voir. Mais t'as plombé l'ambiance à Fred, l'art du storytelling, hein. Voilà, j'organise des épreuves, mais vous savez, les gens n'ont rien à foutre de moi. Non mais n'importe quoi. Bon,
c'est pour me faire plaindre.
Jean, tu l'as un petit peu dit. Pour toi, c'était l'année ou jamais, l'année où tu t'es fait plaisir, l'année où t'as finalement fait la meilleure combinaison entre résultat et exécution. Cécile, c'était ta première expérience, toute première avec un bagage technique et physique largement supérieur à nos deux autres comparses. Et Marie, bah, comme on l'a dit, tu t'es mise au VTT 6 jours avant la course, à peu près, sans exagérer. Je pense que c'était un peu plus que ça, mais c'était autour de 3 semaines de mémoire. On va commencer par Cécile. Comment on sort d'une épreuve ultra ? Moralement, physiquement, comment on en sort ?
Moi, je dirais
spécialement
plutôt,
pour toi, pour ouais. Laquelle c'était spécialement pour toi, c'était la première. Qu'est-ce que tu t'attendais ? Et à l'arrivée, quelle est la balance entre ce que tu pensais et ce que tu vis réellement ?
Moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans plutôt. Finalement, je suis arrivée, j'étais en meilleure forme que quand je suis partie. En tout cas, les 2-3 premiers jours où j'étais pas forcément dans le rythme. Enfin, en tout cas, c'était un rythme que j'avais pas du tout anticipé. Je pensais qu'on allait quand même beaucoup rouler, mais je m'attendais pas à ce que finalement tout le monde roule sur les 3-4 premiers jours de nuit, ou très souvent la nuit, ou enchaîne énormément de kilomètres comme ça. Je m'attendais pas à avoir autant de douleurs articulaires et tendineuses. Ça, j'avais pas du tout anticipé. Et puis, effectivement, il faut aussi prendre beaucoup en compte l'aspect autour, quoi, parce que le vélo c'est une partie, mais en fait il y a une sorte j'ai trouvé un environnement assez pas hostile, mais où il faut finalement vraiment prendre soin de soi minute par minute, parce que on peut être parfois à des endroits pas très enfin un peu dangereux à des heures de la journée un peu tardives, ou alors pas trop savoir où poser son couchage, ou manger ou dormir, ou prendre à boire. Donc du coup, ça, j'avais pas forcément trop anticipé. Donc voilà, pour moi, c'est plus... je suis arrivée finalement en ayant un peu le rythme, pris le rythme, donc en meilleure forme qu'au départ. Voilà, donc ce que j'en garde, c'est plutôt ça, c'est se mettre dans le rythme, c'est une grosse claque, parce que c'est 15 heures sur le vélo, et que, enfin, en tout cas pour ma part, c'était ça, et que j'avais pas anticipé que ça allait autant me faire... autant me créer de douleurs articulaires.
Tu n'avais pas du tout anticipé le fait que tu allais rouler autant en t'inscrivant
ouais,
à un truc
ouais.
de 2000 km.
C'est ça.
Tu avais prévu
fait,
3 semaines pour le faire, en fait.
Non, pas du tout. Non, mais je m'attendais pas à ce que tout le monde ait un rythme soutenu dès le départ, en fait. En fait, pour te raconter un peu ma trajectoire, moi, j'ai pas forcément fait beaucoup de bornes au début. J'ai fait à peine 200... Enfin, mon max, ça a été 210 bornes dans la journée, je crois. Et je compare par exemple à Marie. Marie, elle a roulé beaucoup plus que moi au départ. Et du coup, moi, j'avais pas anticipé que tout le monde allait partir un peu en mode fusée. Enfin, pour te montrer, à la fin du premier jour, je crois le lendemain matin, il y a quelqu'un qui a... Il y avait un gars qui avait fait 380 bornes. Ouais, c'est tu te dis mais purée, mais tout le monde est parti comme des fusées quoi. Enfin, ou alors c'est moi qui suis pas. Donc voilà, j'allais pas anticiper effectivement ce rythme-là.
Et après, comment tu t'es adapté? Tu as maintenu le cap avec une moyenne de 200-210 par jour et à la fraîcheur et à l'expérience finalement de la et à la technique, au pilotage et à la pédale. Tu as géré jusqu'au bout, ça s'est passé comment?
Mais en fait, au fur et à mesure, c'est sur les, on va dire, 5 premiers jours, c'était relativement plat. Donc ouais, 200 bornes à peu près par jour. Et ensuite, c'est devenu de plus en plus technique ou physique, notamment quand on a commencé à passer le d'abord le lac de Saint-Pardoux, et puis après quand on est allé à les monts d'Abazac, je connais. Et donc je m'attendais à ça. Et après le lac de Vassivière, donc ça je m'y attendais, ça m'a claqué comme tout le monde hein, je pense, mais c'était physique. Moi ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû adapter au bout de 3 jours mon pédalage. J'ai réglé mes cales à la cyclerie au CP2 parce que c'était pas du tout ça, et donc j'ai vécu avec ces douleurs et j'ai essayé de les, entre guillemets, de les contrôler au maximum, parce que finalement c'était pas finalement physique qui m'a trop contrainte, mais c'est plus ces douleurs-là qui m'ont contrainte à avoir un rythme plus lent, plus régulier finalement. Et puis avec ces passages techniques et physiques, j'ai finalement bien rattrapé à partir de ce passage en Bazac. Et donc là, j'ai rattrapé mon retard que j'avais cumulé du départ, quoi.
Marie, ça s'est passé comment pour toi? Un départ moyennement rapide, je crois.
Clairement,
un départ tonique quand même, un petit départ rapide.
Ouais, moi ça s'est déroulé à l'inverse de Cécile en fait. Effectivement, les premiers jours, j'ai essayé de rouler au maximum, de rouler de nuit, tout en quand même ne négligeant pas trop le sommeil pour pas accumuler de la fatigue parce que ça allait être très long. Et moi j'ai pris ma première claque dans le Limousin. Là. Ça a été vraiment vraiment une journée difficile. C'était 60 km en 8 heures où je savais pas passer quoi. Bien sûr, il y avait des endroits c'était du portage pour tout le monde, mais il y avait d'autres endroits où c'était du portage pour moi parce que je savais pas passer alors que je devrais pouvoir être capable de passer sur le vélo. Et suite à ce Limousin, j'ai dû ralentir le lendemain parce que j'étais explosée, j'avais un début de tendinite aussi au tendon d'Achille. Le Massif Central s'est pas trop mal passé et puis j'ai repris une deuxième claque dans l'Ardèche où je commençais vraiment à fatiguer. J'ai fait une chute où je me suis fait mal et là je me suis dit je pouvais plus rouler de nuit quoi. Je me sentais pas le niveau de rouler de nuit. Donc du coup les journées étaient plus courtes, les nuits étaient plus longues. Donc je suis arrivée à la fin pas si fatiguée que ça, parce que je faisais des grosses nuits. J'étais fatiguée, si, bien sûr, physiquement, musculairement, j'étais cuite, mais j'avais pas cette accumulation de fatigue que j'avais connue sur la GTB. Après, tu demandais comment est-ce qu'on était arrivé. Moi, ça fait plus de 15 jours que la course s'est terminée. Moi, j'ai l'impression d'être encore dedans. Pour moi, c'est vraiment... C'était vraiment un voyage extraordinaire et la tête, elle n'est pas rentrée encore. Après, le physique, c'est bon, on a repris l'entraînement, hein, ça va. Il n'y a plus de bobos. Hein.
Ouais, tiens, il faudra que tu me dises comment s'est passée cette petite séance de tempo d'ailleurs.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous reparler également de ta tendinite? Parce que tu as eu un début de tendinite et tu l'as, parce qu'il faut préciser que toi aussi, tu es médecin. Malgré ça, que quand il t'arrive un truc, tu m'appelles. Donc merci. Tout ça pour que je te dise, écoute, moi je suis pas médecin, je sais pas quoi te dire, débrouille-toi. Donc comment tu as soigné ta tendinite? Rappelle-nous comment tu as fait, parce que c'était quand même une super stratégie et c'était hyper futé.
Ouais, ça m'a occupé 4 jours. Hein. Non, mais je l'ai soigné d'abord médicalement pour soulager la douleur, parce que c'était ça le premier problème. Donc j'ai mis une cale dans ma semelle de propreté dans la chaussure avec une manchette solaire que j'avais roulée. Ça me faisait une petite cale, donc ça me donnait un petit peu plus d'équin au pied. Ça soulageait le tendon. Et puis, je voulais pas prendre de médicaments parce que je voulais pas masquer les douleurs. Néanmoins, j'ai mis un petit peu d'anti-inflammatoire sur le tendon pour pas non plus qu'il, parce que le tendon commençait à gonfler, à chauffer. Donc, j'en mettais deux fois par jour, sous occlusion d'un papier de barre de céréales ou ce que j'avais sous la main, quoi. Et après, voilà, ma question, c'était, est-ce que il fallait que je bouge ma cale ou que je bouge ma selle? Et en fait, j'ai fini par reculer ma cale de 2 mm et au bout de 12 heures, je sentais qu'en fait, la douleur n'allait pas en augmentant, elle est en diminuant. Le lendemain, j'ai aussi baissé ma selle et la douleur a totalement disparu en 4 jours, en fait.
Un bon diagnostic, donc.
Ben après, c'est un problème mécanique, c'est pas un problème médical. C'est un problème mécanique que, en fait, j'ai dépisté qu'au bout de 1000 bornes. Parce que quand on fait même à l'entraînement des sorties de 300 bornes, ben on se rend pas compte qu'on peut avoir une cale mal réglée de 2 mm. C'est compliqué.
Non, mais c'est quand tu dis les sorties de 300 bornes, ça me rappelle un épisode avant la GTB. Alors, je vais vous le raconter, hein, Cécile et Jean. Avant la GTB, avec Cécile, on prépare le coup. Je lui dis ce week-end, Cécile,
Paris.
Pénard, pas de folie. Hein. Tu restes tranquille, tu as bien roulé ces dernières semaines, tu as fait des blocs, tu as fait la Spider 666 où elle a perdu son binôme parce qu'il est devenu aveugle. Et elle m'a demandé quoi faire, tu sais, comme si j'étais ophtalmo en plus d'être kiné et médecin, quoi. Non, j'en sais rien du tout, donc j'ai... Et je regarde le soir sur la plateforme d'entraînement et je vois sortie de 10h, Marie, 300 bornes. Tranquille, quoi. Ce week-end, pareil, je lui dis, Marie, tranquille, 3h, elle m'écrit dimanche ou lundi matin. Je suis tombé dans un traquenard, j'ai fait 5h, on a roulé comme des bourriques. Très bien, très bien. Donc à ce niveau-là, ça ne sert plus à rien d'avoir des évaluations, d'efforts, de charges d'entraînement, de capteurs de puissance, ça ne sert à rien, Marie. Hein.
Non, mais tu sais, je suis consciente que je dois être un petit peu pénible à coacher.
Non, non, ça va. Jean, j'aimerais savoir pourquoi c'est ta dernière épreuve. Si je te montre ça, est-ce qu'il y a un lien?
Ah non.
Non, mais dit-il avec un air de dégoût, tu sais. Oh non, putain, non. Surtout pas ça.
Non, non, alors c'est les lingettes, c'est le lien avec les bébés ou c'est le lien avec le mal de fesses qu'on peut avoir
Bah, de toute façon, tu les utilises pour les deux, pour le mal au cucu et pour nettoyer une fesse de bébé.
Alors, sachant que mes enfants ont 16 et 18, ça fait longtemps que j'utilise plus de lingettes, ou alors il y a un problème. Et moi, j'ai pas eu trop de problèmes pendant la cytopique. Non, c'est investissement en termes de temps. Et puis, on va dire motivation et travail, ouais, travail mental. Moi, c'est vraiment tempête sous un crâne, ce genre d'épreuve, parce que je n'arrive pas à attaquer à dérouler ce genre d'épreuve en mode tourisme. J'aimerais bien me dire, je vais le faire en 14 jours et puis ça va être cool. Je m'étais dit ça il y a un an, quand je me suis inscrit. Genre, je vais découvrir la Bretagne, puis après, je vais attaquer le Limousin, la Creuse, la GTMC, ça va être bucolique. Sauf qu'au bout de 20 minutes, il y en a 4 qui partent devant, et je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, et je me retrouve à les suivre. Donc, c'est toujours le même carnage. J'ai trop envie de me retrouver dans le paquet de devant, et donc... c'est toujours un peu délicat à gérer quand on avait juste prévu d'aller faire une petite promenade. Donc, ce genre d'épreuve, pour moi, c'est difficile parce qu'à partir du moment où je m'inscris, comme j'ai un bon coup de pédale, je me retrouve forcément dans le premier paquet au départ. Et puis après, je veux pas lâcher, quoi. Et donc, quand on démarre ce genre de truc sur la French Divide avec un petit VTT en 26 pouces et qu'on sait pas à quelle sauce on va être mangé, ça fait tout drôle. Quand 5 ans après ou 6 ans après, on s'inscrit à la Cytopique, ce qui était mon cas, j'ai commencé à savoir comment j'allais devoir me préparer. Et donc, j'ai mis quelques charges d'entraînement un peu costauds avant de partir. Donc, j'étais plutôt prêt physiquement et mentalement. Mais je me rends compte qu'en termes de temps et de qualité de vélo, J'entends par là que parfois je me fais des entraînements où je n'ai pas forcément envie de sortir, mais je me les assène moi-même. C'est plus la façon dont j'ai trop envie de pratiquer le vélo. Donc je pense que je vais me faire des sorties qui feront peut-être la même longueur, mais qui sont surtout avec une bonne bande de rigolos ou de rigolotes. Et puis on va s'arrêter de pédaler à 22 heures parce que ça suffit. On sera pas obligé de pousser jusqu'à 3 heures du matin parce que le mec devant il s'est pas arrêté. Ce genre de délire un petit peu malsain dont Fred a le secret d'ailleurs. Donc ouais, pour moi les épreuves, même si c'est pas une épreuve et qu'il n'y a pas de classement, etc., je me retrouve toujours dans le même schéma mental où j'essaye de garder ma place. Et en fait, c'est difficile, quoi. C'est difficile de garder sa place parce que c'est parti très très fort. Ce que Cécile disait et ce que Marie disait aussi, c'est que c'est parti très très fort pour deux raisons. C'est que le début du tracé est quand même relativement roulant. À part les monts d'Arrée en Bretagne où on s'est tous fait un peu calmer. La première journée, pour ceux qui dormaient, c'était moins 250 bornes. La deuxième, pareil, 270 bornes. La troisième, c'était très roulant. Les premiers, on a calé entre 300 et 330 bornes. Donc, en fait, on voit pas vraiment la fin du tunnel. On se dit que les quatre premiers jours, c'est vraiment des journées de routier où on suit un rythme très, très fort, où les mecs qui étaient devant... sont mis à pas dormir dès la première nuit, donc là tu te dis wow, 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 on va se calmer, on va quand même aller se coucher parce que sinon on va remballer dès le troisième jour. Et donc ouais, c'est ce genre de challenge un peu entraînant qui fait que j'arrive pas à faire autrement. Moi les randos j'y arrive pas, c'est incroyable. Je dois avoir une déformation de mes années de compète en vélo. Dès qu'il y a une petite lumière rouge devant, faut absolument que je la suive. C'est une déformation. Donc, peut-être que je me mens et peut-être que je re-signerai dans quelques temps, mais pour l'instant, je me dis que non, Richard, pas de la tête dans l'autre sens, pas comme ça, comme ça.
Non, je suis en train de me dire qu'en fait, tu sais, avec la plateforme que j'utilise pour les podcasts, j'ai tout un tas de sons prédéterminés et plusieurs fois, j'ai essayé de les utiliser dans les épisodes. Et en fait, j'avais pas vu qu'il y a un bouton preview et un bouton live. Donc là, je viens de passer sur le bouton live et je vais te faire une sorte de métaphore de ce qui est en train de se passer dans la tête de toutes celles et ceux qui écoutent tes justifications. Ouais.
Alors là, je pense que tous ceux qui me connaissent sont exactement dans le même état.
Là, je pense que ça a fonctionné, donc inutile de vous dire que je ne suis pas peu fier, déjà. Ok. Ah, il est 17h à l'église de quelqu'un. C'est peut-être bien Cécile.
C'est moi, ouais,
l'église du village dans la Drôme. Eh bien, ça tombe bien. Transition parfaite. Cécile, tu as utilisé quel vélo et plus exactement, comment tu as adapté, parce que je vois venir ta réponse, comment tu as adapté un vélo de compétition VTT marathon pour un effort de 4-5 heures à quelque chose qui va t'emmener sur plusieurs jours?
Donc effectivement, moi j'ai pris le vélo que j'avais, hein, j'avais un Orbea OIZ, donc un VTT tout suspendu. D'ailleurs, je crois être la seule à avoir eu un tout suspendu. Je ne sais pas exactement pour la vague du samedi, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas croisé d'autres.
Il y avait d'autres tout suspendus.
Il y en avait d'autres ?
Oui, il y en avait d'autres.
D'accord. Mmh. D'accord. Et du coup, ce que j'ai fait, déjà, j'ai viré ma tige de selle télescopique. J'ai remplacé par une fixe. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé ma paire de roues. Donc, j'ai eu la chance qu'on me monte des roues sur mesure, donc avec une dynamo à l'avant.
Est-ce que tu peux en profiter pour faire un petit peu de promo honteuse?
Oui.
Pour le sordide individu qui monte tes roues, parce que c'est un punk à chien aux alentours de Limoges.
C'est ça. C'est les roues turbo. Donc, c'est Mathieu Bieloff. Qui vraiment m'a monté des roues du, qui est vraiment très bon montage. Franchement, j'ai eu zéro problème. Et puis, vraiment, j'ai pas senti beaucoup de différence avec mes roues carbone d'origine. Donc ça, c'était top. Et puis après, j'ai changé mes pneus et un petit peu de quelques trucs sur le vélo, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. J'ai rajouté quelques sacoches.
T'as mis quoi comme pneus?
J'ai mis des. C'est quoi des?
Hutchinson.
Hutchinson. Ouais. C'était quoi le modèle? Ouais, c'est ça. Et c'était le modèle des Kraken.
Les Kraken.
Ouais, les Kraken en 230. Mmh. Bah écoute, pareil, on les a. C'est Pure Bike. À Saint-Mexan là qui m'a monté ça et je les ai gonflés super fort parce que bon 230 sur la partie roulante je me suis dit purée ça va accrocher et du coup j'avais pas mal de roulants là sur le bitume ça a envoyé pas mal en étant gonflé quasiment à 2,5 au départ et puis j'avais une accroche latérale qui était vraiment bonne du coup ouais je regrette vraiment pas cette montre de pneus quoi.
Le même pneu à l'avant et à l'arrière, donc Kraken ouais, avant et arrière. Ça. T'as pas fait le petit mélange habituel.
Non, bah écoute, on m'a filé ça et puis franchement, je connaissais pas et franchement, je trouvais ça vraiment top.
N'ayant jamais fait d'ultra ou même de longue distance, comment tu as choisi tes sacoches et sur quels critères? Et est-ce que tu as eu des déconvenues ou mauvaises surprises?
Bah écoute, sur les sacoches, je me suis pas mal renseignée. Blog ou tous les autres retours d'expérience d'autres personnes. Donc du coup, j'ai pas eu trop de mauvaises surprises. J'avais un peu peur que ça écrase mes câbles, parce que j'avais tous les câbles à l'avant, notamment les câbles de blocage de fourche. J'avais deux supplémentaires. Donc j'avais un peu peur que ça m'écrase tout. Donc ben écoute ça a tenu jusqu'à la fin et j'ai vu que ma sacoche avait poncé tous mes câbles donc là je suis bonne pour changer gaine et câble tout d'un coup. Après ouais il m'a fallu trouver le bon réglage pour le gonflage de mon amorteau et de ma fourche parce que du coup avec la sacoche à l'arrière je viens frotter le pneu. Donc il m'a fallu j'ai gonflé à 200 PSI soit plus du double de ce que je mets d'habitude. Donc on est quasiment aux limites de la morteau quoi. Et donc en fait, m'a fallu quand même adapter un peu ma conduite pour pas trop toucher et pas trop frotter ma sacoche à l'arrière. Donc c'était agréable d'avoir le tout suspendu, mais il fallait quand même être souple et pas faire n'importe quoi dans les trous notamment pas tout arracher quoi. Voilà et puis déconvenu moi j'ai cassé j'avais un porte bidon à l'arrière qui me faisait stabilisateur de sacoche avec deux bidons sur les côtés de la sacoche et il a cassé il était en alu il a cassé le premier jour et il y en a un des morceaux avec mon porte bidon qui est passé dans ma roue le premier jour et en pleine descente du coup j'ai cru que j'avais tout arraché parce que ça fait un sacré boucan puis ça m'a bloqué la roue. Et en fait, chance pour moi, ça m'a tordu l'obus, bien tordu, mais rien se passait d'autre. Donc a priori, ça a tenu comme ça 300 bornes de plus. Et puis au CP1, on m'a gentiment changé l'obus pour revenir dans de bonnes conditions. Puis du coup, mes bidons, ils ont fini sur mes sacoches parce que voilà, pas d'autre moyen.
Ok. On reparlera des suspensions tout à l'heure parce que c'est quand même un débat qui fait rage sur les épreuves ultra off-road. On voit que ça évolue doucement. Donc, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Bon, Marie, comment tu as adapté ton vélo? Ton bon petit Focus, tu me disais, j'ai mon gravel, mais j'ai aussi un VTT, un Focus. À ton avis, qu'est-ce que je fais? Il est en double plateau? À ton avis,
c'est un petit VTT entrée de gamme que j'avais acheté en 2018 et j'avais jamais roulé avec. Enfin, des petites sorties avec mon fils dans la forêt de 20-30 bornes, quoi, jamais plus. Et ça m'a fait tout drôle. Hein. Déjà, rien que le guidon avec un cintre plat, j'étais perdue, quoi. Donc ça m'a pris un peu de temps de trouver déjà la bonne raccourcir la potence, réussir à mettre des prolongateurs, changer des poignées, mettre des appendices. J'ai changé aussi les roues, les pneus, la fourche. Donc le VTT était quand même un peu amélioré. Mais malgré ça, je pense qu'au niveau matériel, on peut faire mieux. J'étais hyper lourde. J'avais pour la GTB, j'étais à 16 kilos sans eau, sans bouffe, et là j'étais à 22 kilos sans eau, sans bouffe. Et pourtant j'avais le même matériel dans les sacoches, quoi. Donc voilà, c'est trop lourd pour moi, quoi.
Bah c'est vrai qu'un
Mais
vélo, un vélo qui fait 50% de ton poids total, c'est peut-être un petit peu trop quand même. Et puis les sacoches, je dois avouer que je suis partiellement responsable parce que je t'avais confié un ensemble de chez Deuter en test pour le magazine. Et on voit ce qui est advenu à cette malheureuse paire de sacoches. Les pauvres, elles ont souffert. T'as fini avec des tendons tout autour des sacoches. Elles
ouais,
n'ont pas supporté le traitement.
on peut
Ouais,
rafistoler.
elles n'ont pas. Elles n'ont pas supporté. Également, tu t'es arrêté en cours de route pour faire mettre une cassette un petit peu plus grosse. C'est
Ouais,
ça?
tout à fait. Bah ça, c'est pareil. Je me rendais, enfin, habitant dans le Poitou, je me rendais pas trop compte. Alors, j'avais du 26-36 à l'avant et j'avais du 11-36 à l'arrière. Mais c'est sûr que chez moi, le 34 et le 36, j'utilise jamais. Et bon bah, en Auvergne, il m'a changé la cassette à l'arrière et le dérailleur parce que mon dérailleur n'acceptait pas une cassette plus grosse. Et effectivement, c'était mieux après, oui.
Mais pour quand même finir sur une note de bonne humeur et de qualité, tu avais de superbes lunettes de soleil également de la marque Casio que je t'ai
Ouais.
également confiées et qui te suivent depuis la GTB et
Ah
te vont à ravir.
là, c'est vrai que ouais. Là, j'ai
Elles
rien
te
à
plaisent en plus
redire pour ces
celles-là.
lunettes, ouais.
Ouais, au moins les lunettes ça va quoi, les lunettes avancent bien. Bien, Jean, et on m'a dit, le gars qui fait le premier temps de la C2P, qu'il a fait ça sur un vélo rouillé parce qu'il n'a pas eu le temps de le peindre, c'est lui qui l'a fait. Alors que tu l'aies fait, ça je le sais, et tous ceux qui ont écouté l'épisode avec toi le savent, mais rouillé vraiment, ou c'était juste un vernis finement rusty grunge?
Non, j'ai. Bah, il était pas peint. Enfin, je vais le faire chromer le vélo, parce que je pense que le chromage, ça peut être un bon allié pour des vélos de bikepacking où on accroche des sacoches un peu partout. Donc là, il n'y aura pas de peinture qui saute et pas de rayures. Mais je suis parti, ouais, avec un cadre. La version officielle, c'est que j'ai pas eu le temps de la peindre. La version extra-officielle, c'est que j'ai fait la version 1 de ce cadre-là qui me plaisait pas du tout. Et il a fallu que je fasse une version 2 3 semaines avant de partir, un mois on va dire. Et du coup c'était un peu short, j'ai vraiment pas eu le temps de le finir, je l'ai fini pour rouler avec. Je l'ai protégé juste avec de l'huile de lin, hein, qui a eu le temps de sécher sur le cadre pour pas qu'il finisse complètement rouillé. Et donc, breaking news, l'huile de lin ça marche, si vous avez peur de faire rouiller votre vélo. Ça a tenu 2000 bornes. Bon, il a fait sec, hein. Il a plu juste en Bretagne parce que voilà, il pleut généralement sur tout type de personnes en Bretagne. Et donc, ouais, j'ai gagné au moins 150 grammes de peinture, hein. Ceci dit, en gain de poids, je recommande rouler avec des vélos non peints, c'est peut-être la clé de la victoire.
T'as rien inventé, hein. Les vélos des pros pour Paris-Roubaix ont pas de peinture et pas de vernis justement pour gagner 50 grammes.
Ouais, je sais bien. Et donc,
Ah bah oui,
oui.
t'habites à Amiens, alors forcément Paris-Roubaix, tu maîtrises,
Moi, c'est.
forcément.
Ouais, j'y vais tous les week-ends.
Bah, à Rambert. À Rambert, voyons, c'est à côté. Avec tes années d'expérience, comment tu as fait évoluer, même entre l'année dernière, entre l'Highland Trail et cette année, comment tu as fait évoluer ton équipement? Parce que si on regarde ton vélo, on note que tu as une mini sacoche à l'arrière, une sacoche de cadre moyenne, mais par contre un gros roll-up à l'avant. Et surtout, ce qui m'a étonné, enfin pas étonné, mais j'ai trouvé ça quand même assez ri pas risqué, mais audacieux, prolongateur avec ton smartphone bien en évidence sur le dessus.
Oui,
Comment tu...
alors oui, smartphone, il n'est pas resté longtemps sur le guidon, mais il m'est arrivé
En
de le
tout cas,
perdre.
sur les photos mensongères de Fred, on voit ton smartphone.
Ouais. Ben, je le mets quand c'est roulant, ça m'arrive de le mettre, et puis je le mets quand je m'ennuie, quand j'ai besoin d'écouter un épisode de Spotzel pour me remonter le moral. Ou d'autres, hein. Il y a des très bons podcasts
Oui, bah oui.
version anglaise qui sont également excellents. Moi, je suis parti en full rigide. Ce qui a changé par rapport à l'Highland Trail, c'est que l'Highland Trail, pour moi, il faut vraiment une fourche parce que c'est vraiment du VTT, quand même assez cassant. Et quand on roule en rigide, on peut faire 2, 3 erreurs par jour, mais on peut pas en faire 10. Et avec la fatigue, on peut en faire vraiment souvent. Et le problème de rouler en fourche rigide, c'est que on peut très très vite pincer un pneu, voire 2 pneus, et se retrouver dans la mouise. Après, mon vélo, pour donner une idée, il faisait 17, un peu plus de 17 kilos au complet, sans eau, avec un peu de bouffe sèche, mais pas grand-chose, 4 heures de bouffe. Je savais que ça allait être plutôt roulant. Si, enfin, c'était peut-être comparable, je me faisais dans l'idée d'un truc à peu près comparable à la French Divide. On restait quand même en France et à part dans le Massif Central, à la fin du Massif Central, en Ardèche et puis dans les Alpes, le reste c'était pas non plus avec des gros pavés. Donc ça devait passer. Je suis parti un peu petit en pneus. J'ai voulu faire mon américain. J'ai mis des pneus Renéhers en 55, qui étaient un peu légers pour mon style de vélo. Donc c'est des pneus très fins, avec peu de crans, notamment sur les côtés. Donc il faut faire attention dans les dévers et dans les virages. Ça peut partir très vite. Par contre, ça roulait plutôt pas mal. C'est des pneus qui sont assez roulants. À refaire, je prendrais au moins des pneus de VTT dignes de ce nom, chez Victoria, chez Continental ou autre, pour avoir vraiment un peu d'accroche quand ça devient mou. Mais venant du VTT et ayant déjà eu des vélos complets, enfin full rigide, je sais pas trop un problème pour moi de réussir à piloter un VTT en rigide. Donc, on va juste moins vite quand c'est très technique pour pas tout éclater. Mais de toute façon, aller moins vite dans les portions techniques, c'est pas ça qui change grand-chose sur le temps final. C'est surtout le temps de selle qui donne le résultat et c'est pas tellement de passer à 25 ou à 20 dans le technique, quoi. Donc, faut être très très humble dans les sections qui chahutent un peu. Notamment la descente du plomb de Cantal, donc j'ai un souvenir ému qui nous a valu à tous ceux qui étaient en gravel et en rigide à peu près 2 heures et demie, 3 heures et demie de secouage intensif. Donc là, j'ai pas pu écouter Spotzel. Tu m'excuseras, Richard, j'ai au moins 3, 4 épisodes de retard. Mais sinon, ça
Pareil.
passe. Pour moi, ça passe. Ouais. Pour moi, ça passe comme ça.
Bon, bah tu le sais, hein, Jean, que ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les transitions totalement naturelles et fluides. Et là, on va donner la parole à Fred. Et ce que j'aimerais, c'est Fred, d'après ton expérience d'organisateur, sur ces épreuves qui, et même sur ces épreuves, sur les épreuves qui se développent, on va pas seulement parler des tiennes, mais aussi là en ce moment, il y a la Silk Road. Il y a eu la French Divide et il y a encore la French Divide pour pas mal de monde encore. Comment on choisit son vélo pour ce type d'épreuve? On voit que vous avez, ben on voit les trois protagonistes avec un profil très différent.
J'ai des stats en
Alors,
plus.
comment on choisit? Comment on choisit?
Le vélo qu'on a.
T'as des stats? Attends, ça y est
Ouais,
là.
j'ai. Non, j'ai regardé rapidement
Oui, mais.
la liste des vélos pour te dire à peu près combien il y avait de gravel, combien il y avait de Monster Cross, combien il y avait de tout suspendu. Les tout suspendus en tout, il y en avait quatre. Il y avait une dizaine de vélos avec des fourches suspendues, que ce soit hybride ou VTT. Il y avait une quinzaine de Monster Cross ou vélos entre hybrides, entre le VTT, enfin, tu sais pas trop les déterminer, avec des gros pneus, du moins. Il y avait une quinzaine de VTT avec des gros pneus, et il y avait une dizaine de gravel. Ce que je considère gravel, c'est des pneus en dessous de 45. Ce qui est un peu compliqué sur le terrain de la Sea-to-Peak, puisque ça reste quand même du vrai, vrai tout-terrain. Et que pour moi, on ne gagne pas du temps sur les parties roulantes. Par contre, on en perd énormément dans les parties où on se fait secouer, même si elles sont un peu limitées à certains endroits. Voilà. Donc pour moi, comment on choisit son vélo? Bah déjà, à moins d'avoir un garage comme le mien, plein de vélos, un vélo pour chaque utilisation, je pense qu'on prend le vélo qu'on a et qu'on essaye d'adapter, si c'est une première. Ou alors un vélo qu'on a en fonction de sa pratique et surtout de son terrain. On a notamment des gens qui sont venus avec des gravels parce qu'ils ont que ça pour rouler dans leur région parce que c'est adapté, et qui forcément se font secouer, voilà. Donc c'est vrai que ça traverse toute la France, on a différents types de terrains, du roulant, du cassant, de la montagne, et c'est difficile d'avoir un vélo bon partout, mais moi, globalement, sur une City to Peak, il faut au moins, effectivement, du gros pneu, ça c'est sûr, en rigide ou pas, avec une fourche ou un tout suspendu, voilà. Tu parlais, effectivement, sûrement, de rebondir, la généralisation des tout suspendus sur les épreuves longue distance. Il y a quelques années, je t'aurais dit faire fiable, le moins de suspension possible. Globalement, maintenant, les suspensions sont assez fiables. On peut rouler avec un tout suspendu, effectivement, si on voulait rouler vite et gagner du confort et passer rapidement sur les portions techniques que les autres se feront plus secouer, quoi. Je pense que c'est envisageable. Donc, on va en voir de plus en plus chez les pros et pas forcément chez les pros, puisque je te dis, il y avait, ça faisait 10% de tout suspendu sur la City to Peak. Et pas mal de fourches suspendues, ce qu'on n'aurait pas vu il y a quelques années, sur la première French Divide. Moi, je devais faire la première French Divide, je m'étais engagé, j'allais venir avec un cyclocross. Je serais peut-être mort à l'heure actuelle, en train de sécher quelque part dans les Pyrénées, ou même avant. Mais à une époque, on se disait, on n'avait pas encore conscience de ce que ça pouvait être, et on se disait, il faut un vélo rapide pour aller très très vite et tout. Pour moi, on gagne pas de temps sur le roulant. On peut se reposer, mais les portions techniques, si tu te fais secouer avec ton petit gravel, franchement, sur le roulant après, tu vas pas aller vite parce que tu seras tellement défoncé le cul, les mains et tout, que tu n'iras pas beaucoup plus vite, quoi. En termes de rendement au niveau de la largeur du pneu, c'est faut oublier. Sinon, les pros sur route rouleraient encore en pneu de 20. Ils rouleraient pas en pneu de 28, voire 30 maintenant pour certains. Il n'y a pas de perte de rendement avec un gros pneu. Au contraire, la surface de contact est un peu plus importante et paradoxalement, le rendement est meilleur. C'est mon avis, hein, mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis parti un peu dans des... Oh, c'est magnifique. Je montre, hein, parce que c'est peut-être un futur sponsor. Trek. 3 ans que je leur cours après. Je les aurai.
Ouais, depuis le temps que tu leur cours après. c'est ça. Depuis le temps que tu cours après, putain. À part te filer une paire de casquettes, quand même. Dis donc. Bon, Cécile, rétrospectivement, est-ce que tu prendrais le même vélo? Ou si tu devais... qu'est-ce que tu aurais modifié, toi? Parce que quand on parle justement de bagages techniques, de roulant, d'être un petit peu secoué dans les portions techniques, toi, tu en retires quoi tout ça, cet équilibre avec les pneus, avec les suspensions, pour les tout suspendus également, et Fred ne l'a pas mentionné, ce qui peut freiner aussi l'usage d'un tout suspendu, c'est l'usage d'une sacoche de cadre ou d'une intégrale de cadre, un petit peu compliqué avec l'amortisseur.
Ouais. Ouais, pour le coup, tu vois, sur mon VTT, en plus, j'ai un petit cadre, je suis pas très grande, j'ai zéro espace à l'intérieur de mon triangle. Donc, j'ai que un bidon. Et donc, je peux rien mettre d'autre. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Effectivement, je pense que ça m'a apporté en confort, même si c'est bien moins confortable que quand tu peux mettre les suspensions en mode classique. Voilà, c'est ce côté, il faut avoir une sacoche arrière qui est quand même pas très volumineuse, ou en tout cas, ou alors t'as un plus grand vélo que moi. Parce que moi, j'étais, je te dis, assez proche, donc fallait bien la serrer et puis faire gaffe dans les trous et dans les remontées. Donc c'était pas mal le tout suspendu. Peut-être que même un VTT un peu plus léger, hein, parce que c'est un tout suspendu, c'est quand même un poil plus lourd, hein, comparativement. Même un semi-rigide, je pense que c'est peut-être le meilleur compromis dans l'histoire. Après, comme j'ai pas testé, forcément, je peux pas te dire ce que ça m'a apporté de plus. En tout cas, le confort, je l'avais. Enfin, je pense. Et la seule chose que moi j'ai faite modifier en cours de route aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai changé mon plateau et je suis passée d'un 32 à un 28. Ce qui est pas rien, c'est j'avais jamais vu un plateau aussi petit, j'avais l'impression de j'hallucinais quand j'ai vu la taille du plateau. et à refaire, mais c'est sûr que je garderai le 28 parce que j'en ai quand même pas mal bavé au début, parce que j'ai passé beaucoup de choses en force avant de changer au CP2, mais j'aurais jamais pu avoir cette vitesse et on va dire cette progression si je l'avais pas changé avant le Limousin puis tout le reste quoi. Donc ça pour sûr, il faut vraiment adapter parce que on est beaucoup plus lourd et parce que il faut durer donc il faut un plateau qui soit, enfin en tout cas une transmission qui soit vraiment adaptée pour mouliner quoi. Mais ouais, VTT tout suspendu ou semi-rigide, c'est peut-être le mieux.
Donc finalement, Fred, Jean et Marie aussi, parce que tu as eu les mêmes problèmes de transmission, le choix du vélo, il se fait majoritairement sur la taille des pneus que l'on va pouvoir utiliser et surtout, les braquets et adaptés. Et oublier toutes ces histoires de rendement et à moins d'être expérimenté comme Jean, oublier cette idée qu'on va rouler vite sur les portions roulantes, qu'on va envoyer comme un bâtard, comme sur la nationale entre Chartres et Dreux. Ça c'est pas possible ça. C'est parce que j'habite à côté. Pour ça, sinon une nationale roulante t'en trouves partout hein, entre Vannes et Plouescat, je pense. Pareil. Ça existe ou pas?
Ouais, on a des nationales qui sont des pseudo autoroutes. Ouais. Mmh. Il y a souvent des cyclistes qui se trompent.
Jean, une opinion sur les braquets?
Bah, les braquets, ouais. Alors pour ma part, j'étais parti avec un 32 à l'avant, 10-50 à l'arrière, et c'était trop gros. Je suis parti avec un 32 tout simplement parce que avant de partir, je me suis rendu compte que mon plateau de tente était complètement raide et qu'il fallait que je parte avec une transmission propre, nickel, et il n'y avait plus de stock sur du 30, donc j'ai pris une taille au-dessus. C'était un peu gros, c'était un peu trop gros. Donc effectivement, pour les braquets type VTT, une cassette 10-50, 10-52 avec un plateau de 28 ou 30, faut se dire de base que sur le roulant, on en profite juste pour récupérer. On n'en voit jamais de toute façon, on n'en voit jamais de puissance, on n'en voit jamais de braquet à aucun moment. Quand ça chahute, on serre les dents et on attend que ça se passe. Et quand ça roule, on récupère. On mange, on boit, on appelle sa famille pour avoir un peu de discussion et puis ça s'arrête là. On n'envoie pas 350 watts sur le plat entre Poitiers et Limoges, ça c'est sûr.
Alors, en ce moment, il y a la Silk Road et quelques jours avant le départ, Miguel Tapias Pardo m'a appelé comme tous les jours. Avant une course, il est un peu anxieux, avant une épreuve, il m'a dit, ce matin, j'ai parlé avec Adrien Lechti, il m'a dit, le 32, tu l'oublies, tu le laisses à la maison. Ouais. 30 ou 28, c'est l'idéal. Certes, sur les premiers kilomètres, ça va être un petit peu chiant parce que c'est neutralisé, ça roule quand même bien. Et puis après, c'est roulant. Mais après, par contre, le 28, absolument obligatoire. Et j'ai l'impression que on en revient à cette même idée que il faut oublier cette notion de rendement et de roulage et anticiper au maximum les portions où ça va être un peu pentu avec la fatigue physique, mentale et le chargement et les cailloux, les racines et tout ce bordel.
Il faut pas oublier que on part pas avec un vélo qui est nu. Donc on va tester son vélo avec un plateau de 32 ou 30, ça va passer. Mais il faut y ajouter 5, 6, voire même encore plus pour certains, de kilos de bagages. Donc c'est autant de poids des vélos entre 15 et... Au-delà de 20 kilos, pour moi, c'est trop lourd. Mais il faut pas dépasser les 20 kilos sur des périples comme ça. Mais on va se mettre 5 à 6, 7, voire même pour certains 10 kilos de bagages en plus. Et là, le braquet, si on l'a pas adapté... C'est pas comme si on avait un vélo nu, tout léger. Donc le braquet, oui, c'est important.
Et puis tu te crames sur le long terme de toute façon.
Les sources d'abandon principales. Vas-y.
Non, vas-y Fred, c'est ce que tu allais dire est bien plus intéressant et ça rejoint ce que je voulais dire. Donc,
les sources d'abandon sur les épreuves donc longue distance d'Hermiligue, la Gravel Trobraise et la Citoupique, c'est les tendinites. Donc on a trop forcé dans les montées, on s'est flingué le tendon parce qu'on est un braquet trop élevé ou alors on est chargé trop important et pour le braquet c'est les principales, c'est... le maximum. Globalement, les problèmes mécaniques, il n'y en a pas tant que ça. Sur la C2Peak, sur la vingtaine d'abandons, ça représente 2 ou 3 deux ou trois personnes. Pareil sur la Gravel Trombray, sur la quarantaine d'abandons, c'est deux ou trois personnes. Mais c'est les genoux, les tendons d'Achille, les essuie-glaces, donc genoux, c'est les principaux. Et ça, c'est lié au braquet, trop important, ou qu'on force trop, effectivement, dans les montées. Voilà. J'ai plombé l'ambiance.
T'as des statistiques de tout ça ?
Non, mais j'ai une excellente mémoire. J'ai une excellente mémoire. Je retiens tout, en fait. Même, par exemple, j'ai fait la gravienne il y a un an, ou un an et demi, je suis capable de regarder sur une carte et de te dire à quoi ça ressemble. Donc, j'ai une excellente mémoire visuelle, et puis je retiens beaucoup de choses. Les choses qui m'intéressent, en fait. Donc, quand ça m'intéresse, voilà. Quand tu me parles, par exemple, je me souviens plus de ce que tu m'as dit il y a 3 heures, quoi, parce que ça m'intéresse pas. Mais, non, je déconne. Tout ça pour dire, non, je retiens, voilà, je retiens à peu près. Et puis, les gens me posent des questions, c'est quoi les sources d'abandon et tout. Donc, forcément, c'est intéressant de conserver ces infos quelque part. Mais oui, tendinite, talon d'Achille, le genou, voilà. Et puis après, il y a ce qui vient.
Il y a un colis chez Amazon qui vient d'arriver.
Non, c'est la demi-heure. C'est 5h30.
C'est la demi-heure. Ah. Voilà, 5h30.
Ah, d'accord.
On risque de passer l'année prochaine sur les sites Toupic.
Tu sais, la Drôme,
dans ce petit
la
village.
Drôme, ça commence vraiment à être le sud. Hein. Tu sais, là, il est 17h30. Le soleil se baisse. Il y a les vieilles qui commencent à se rassembler sur la place du village autour du platane.
C'est ça.
Donc, c'est un peu ça quand même autour de la source.
Ouais, mais là, le soleil n'est pas trop d'abandon. En train. Enfin, là, il faut attendre encore un peu. Là.
Bon.
Et dans les autres sources d'abandon, il y a.
On va faire une transition.
Physique.
Ah oui, vas-y.
Le physique ou le craquage mental. Sur cette C2P, il y a eu 3 abandons qui auraient pu être évités. 3 très bons, entre guillemets, coureurs qui auraient pu aller loin et qui auraient pu aller loin devant, qui ont craqué soit mentalement, pas de jus, pas envie, ou alors parce qu'ils étaient plus dans le jeu pour être devant, qui ont abandonné, voilà. Donc le mental aussi joue principalement.
Un craquage dans tous les cas c'est un craquage mental, hein.
Ouais, c'est le mental.
Quand t'es pas dedans et que t'as pas envie, de toute façon. Et puis même quand t'as pas les jambes.
Ouais, le mental.
Généralement c'est les jambes. Hein. C'est
partie,
la tête qui te dit non c'est bon.
Le physique rendre en
alors,
partie.
Regarde, et... écoute bien.
Ouais.
Cécile,
c'est quoi ?
Vous avez entendu la transition de malade ? Attends, je te la refais. Attends, je crois que j'en ai d'autres.
On dirait un gosse qui a un nouveau
Cécile
jeu.
Cécile et le mental. Cécile, ouais, exactement. Cécile et le mental, Cécile, toi qui n'avais pas d'expérience sur ces trucs-là, quand tu t'es rendu compte que ça allait être beaucoup plus dur et que c'était pas une soirée crêpe, qu'est-ce qui s'est passé au début dans ta tête et qu'est-ce que tu as mis en place pour t'adapter à cette situation inconnue ? Je vais en profiter pour revenir sur les tac, psychologie. Est-ce que ça t'a rappelé les cours genre psychologie de la motricité, déficience sensorielle
non.
Et psychologie de la motricité
rien
et
à
déficience
voir.
Sensorielle, on va en parler après.
Rien à voir. Alors dans mes cours, c'est pas du tout de la psychologie, on va dire clinique. C'est comment le cerveau contrôle les mouvements. Donc via les sens, etc. Donc ça n'a pas grand chose à voir et ça m'a pas aidé malheureusement. Par contre, moi là où c'était un peu tangent, c'est quand effectivement les douleurs tendineuses et articulaires sont installées et que je me suis dit que ça faisait que 3 jours et que celle-là, ça allait être vraiment compliqué quand tu fais une nuit blanche parce que t'as trop mal, quoi. Et du coup, j'ai essayé d'aller, on va dire, de régler ces problèmes-là, mais en tout cas de pas les empirer. Donc je me suis mise un peu à l'écart des autres puisque j'étais un peu dans un groupe mais on se suivait un petit peu avec 3-4 autres concurrents et en fait un par un j'ai essayé de les résoudre ou en tout cas de que ça empire pas. J'ai essayé ce qui était important, donc ça a été le changement de cassette à Poitiers. Donc là effectivement ça a été très salvateur. Et puis, quand Philippe Rochon m'a vu et que je lui ai dit que j'avais tendinite au tendon d'Achille, il m'a dit « Surtout, tu recules tes cales tout de suite, sinon tu finiras jamais. » Donc, il m'a dit ça au CP2. J'ai passé une bonne demi-heure à reculer mes cales dans son magasin. Et je les ai reculées d'un centimètre. Donc, j'ai fait ça à fond. Je les ai mises à fond à l'arrière. Et j'ai changé totalement ma façon de pédaler pour essayer de plus tirer dessus, quoi. Et donc, en fait, le mental, ça a été de voir que ça empirait plus. Et puis après, je dirais que tu poses plus trop de questions. Tu vois les autres qui abandonnent finalement au fur et à mesure. Donc, moi, c'est aussi ça. Je suis pas partie très vite. J'avais ces douleurs-là. J'ai essayé de les résoudre. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, je reprenais du terrain au fur et à mesure des jours. Et que j'étais pas hors course, quoi. Donc et au fur et à mesure, finalement, tu prends ton rythme, et comme je disais, il faut vraiment prendre soin de soi à l'extrême, quoi. Vraiment, dès que tu commences à sentir que t'as un peu faim, t'as un peu soif, vraiment tout de suite tu fais le truc qui va te permettre de pas te mettre dans le rouge et de passer de vraiment dans de bonnes conditions. Donc pas hésiter, voilà, j'ai fait le plateau de l'Aubrac, moi je l'ai fait sous la flotte à 10 degrés, j'étais trempée, morte de froid, et je savais qu'il fallait plus avancer, il était quasiment 21h, c'était pas non plus hyper tard, mais je voulais plus avancer, parce que trempée, froid, j'allais pas faire 50 bandes comme ça, ça allait être vraiment un sale moment. Donc je me suis arrêtée dans une grange, et il y a un agriculteur qui m'a aidé un petit peu dans ce moment-là, et ça m'a permis au fur et à mesure de prendre soin et de pas faire n'importe quoi. Ça m'a permis de vraiment prolonger et d'arriver au bout, quoi.
On en a pas parlé tout à l'heure, pas de blessure à la selle.
Oh putain, si.
Bon, on a bien fait d'en parler.
Ah bah oui. Ah, c'est l'horreur.
Oh putain, qui va te dire.
Ah non, mais. Ah bah oui, moi c'est...
Allez, ouais,
c'est
soirée pizza, c'est parti.
Ah non, là. Moi j'ai passé 10 jours avec des pansements pour les escarres, tu vois. Donc ça, pareil, c'est des gars qui avaient fait la French Divide, qui m'ont conseillé, qui m'ont dit qu'il y en avait certains qui avaient fait toute la French Divide avec des pansements pour les escarres et pour... voilà, quoi. Donc
c'est
pareil,
l'épilex.
Ça a été un bon moment. C'est ça.
Donc les pansements pour les escarres, c'est mépilex.
Si je devais refaire une longue distance, voilà. Exactement, oui, c'est ça. Tout à fait. J'avais exactement, ouais. J'ai exactement les mêmes.
Le Comfil Plus, pansement silicone 10 par 10 de chez Coloplast, recommandé par Clémence Vandergeist, infirmière de son état.
Voilà. À refaire, je passerai beaucoup de temps à essayer d'affiner effectivement la position sur le vélo, pour limiter au max ce genre de douleurs qui sont juste atroces et qui te bousillent chaque minute de ta progression. Franchement, c'était terrible. Et j'ai pas les solutions en plus pour les filles. Je trouve ça vraiment injuste parce qu'en fait, je trouve ça vachement plus compliqué de trouver des cuissards qui sont vraiment performants pour les longues distances. Et c'est franchement une horreur. J'ai essayé de trouver avant de partir. Je n'ai pas trouvé quelque chose de haut de gamme. Pour les longues distances, pour les femmes. Voilà.
Il y a quelques marques un peu de niche, mais on en reparlera un tout petit peu. Mais effectivement, les cuissards habituels qu'on va trouver pour les femmes ne sont absolument pas adaptés. Et même les selles, et pour ceux qui lisent Planète Gravel, dans le numéro 6, j'avais fait un dossier sur les études posturales. Et dans le dossier, il y a le témoignage de Mathieu, je ne sais plus quoi, qui est médecin du sport, gynéco et médecin référent de l'équipe Cofidis Femmes. Et on a justement abordé cette thématique vraiment sur le matériel et les blessures spécifiquement féminines qui sont un petit peu plus graves et pérennes que nous, les garçons. Parce que nous, finalement, on va juste se déchirer une couille ou avoir une petite perte de sensibilité. Pour vous, ça va être un petit peu plus grave et ça peut durer dans le temps, ça peut même être irrémédiable. Donc c'est un petit peu plus grave quand même, un petit peu plus gênant et un petit peu plus difficile à résoudre. Mais, spoiler alerte, attention, avec Marie, on est en train de préparer un épisode sur les blessures spécifiquement féminines à vélo, avec Marie, avec Mathieu Muller. Voilà, je viens de retrouver son nom, donc il faut que je redemande à Mathieu sa disponibilité. Et il faut également que je lui demande, mais vu qu'elle écoute le podcast, eh ben, je vais demander directement à Sabine. Donc Sabine Erström, qui est également entraîneur de trail et championne de France de trail. Donc on va préparer un truc là-dessus et on va essayer de le préparer correctement. Et pour les questions, eh ben, je demanderai à Fred, parce que finalement, il s'en sort vachement mieux que moi. Donc voilà, très très bien. Marie, à ton tour. C'était quoi la question de base ?
Alors attends, il y avait eu le mental. Ouais,
Marie et le mental, ouais. Marie et le mental, parce que... Mais ça s'est pas trop mal passé, toi, hein, quand même. À part la selle...
Par rapport à la gravel trop braise. Là, je pense que la gravel trop braise, elle était plus en questionnement, à demander à plein de gens autour de toi. T'étais plus en questionnement, voilà. Ou t'avais plus la pression de ton club derrière, notamment, non, faut que tu continues, faut pas que tu t'arrêtes pour dormir à l'arrivée. Là, tu t'es peut-être plus un peu plus détaché et t'avais plus, non.
Ouais, non, mais c'est vrai que sur la gravelle trop braise, il y avait un ami qui me poussait, qui connaissait bien la course. Et effectivement, j'étais dans la course. Là, sur la C2Peak, c'était pas pareil. J'étais plus en mode finir, être finisher, et puis pas en mode course, quoi. Donc j'avais beaucoup moins la pression, je dormais beaucoup plus. Mais après, mentalement, même quand j'étais dans le dur, je dirais ça allait, quoi. Je savais que ça allait passer. Et je savais que ça irait mieux après. J'étais hyper déterminée à aller jusqu'au bout de la trace. Et je pense qu'il aurait vraiment fallu que je me casse un os pour arrêter.
Ça s'appelle la confiance. Et vous pouvez voir à l'écran que Marie, qui n'arrête pas de gigoter, ça vous donne une petite idée de comment elle est à l'aise à l'idée de parler dans un micro. Elle m'avait dit surtout pas ça, surtout pour le jour où tu veux faire ça, tu m'évites, tu m'oublies, surtout tu m'oublies, hein Marie. Bien,
ouais.
On va faire dans le sens inverse. Marie, tu vas enchaîner sur les douleurs. On en avait déjà parlé. À l'issue de la gravel trop braise, tu t'étais plein d'odème et également, comme tout le monde, de picotement, d'insensibilisation. Ça s'est passé comment là ? Donc pour tous les trois, hein, on va parler d'œdème, de picotement et de perte de sensibilité due à la compression des nerfs.
Ah ben là, moi les mains, j'ai toujours pas activé mes mains, et puis j'ai repris le gravel ce week-end.
Ça doit pas être facile pour boire un café.
Ah, mais ouais, non mais clairement. Ouais.
Attends, celle-là elle est mortelle. Attends, regarde.
Magnifique.
Un vrai gosse.
Oh bah écoute, je suis le plus vieux de vous tous,
non.
Pas de la bande, en tout cas aujourd'hui. Et oui, restez enfant le plus possible, le plus longtemps possible, c'est très important.
Je suis pas sûr.
T'es de quelle année, Richard ?
T'as quel âge, Jean ?
Non, Jean est plus jeune que moi.
Bon, allez-y, allez. Séquence humiliation. Attendez, séquence humiliation.
Je suis de 75.
T'as pas gagné,
Fred.
Je suis de 75.
Ah, le vieux. Ah, c'est dégueu. Ah ouais, 48. Eh ouais.
Je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'il n'entend pas tout, je pense.
C'est pour ça qu'il a des écouteurs dedans. Des écouteurs. Ils peuvent être plus forts comme ça.
Puis là, il fait une chaleur en Touraine, je te raconte pas. Hein. Vivement que je retourne en Bretagne, hein, parce que c'est trop pour les vieux. Hein. Je comprends la canicule en 2005. C'est horrible. Tu parlais des douleurs aux mains. Ouais, là, j'ai pas de stats.
Quand tu m'as dit, je suis dans la.
Vas-y, termine. Qu'est-ce que tu dis ?
Non, j'allais.
Pardon,
j'allais dire une connerie encore malveillante sur. J'allais dire une connerie malveillante. Ah !
Qu'est-ce que tu dis ?
Bon, si on laissait. Alors, vas-y, balance ta stat et après
non,
on laisse Marie.
Non, j'ai pas la stat, mais effectivement, les mains, c'est un problème récurrent sur des longues distances. Même moi, j'ai eu ce problème sur les deux French Divide. Et je pense que il y a des solutions, mais multiplier les positions sur les cintres, avoir la selle aussi haute que le guidon, ce que effectivement Cécile ne peut pas avoir sur un vélo prévu pour une course, pour de la race. Voilà, donc il y avait plein de paramètres, mais tout le monde en souffre. Hein. Il y en a qui effectivement mettent 6 mois, 7 mois avant de revenir. Donc, ça c'est un gros problème sur les entre guillemets. Moi j'ai plus problème depuis que j'ai des vélos sur mesure faits par des artisans du même talent que Jean, qui va me faire mon prochain vélo. Jean, il le sait hein, de toute façon. Non, mais il y a vraiment une étude sur la position et multiplier.
Il le fera quand il aura reçu le chèque. Hein. Voilà.
Bah oui, il faut que je lui envoie d'ailleurs. Non, mais tous ils vont pouvoir en parler. Je pense qu'ils ont tous, peut-être pas Jean, mais ils ont tous eu au moins des problèmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur les problèmes de main.
Bon, Marie, picotement, fourmillement, perte de sensibilité.
Ah ouais, puis c'est terrible parce qu'à la fin. Même dans les descentes, j'étais obligée de m'arrêter pour relâcher un peu les mains parce que je n'arrivais plus à tenir le bidon. Quoi. Ouais. Et ouais, il va falloir que je trouve des solutions par rapport à ça. Après, la selle et les pieds, ça s'est bien passé. Mais j'ai pas de main.
Bah, la selle et les... Alors... On pourrait se moquer, mais là, ces derniers jours, ou peut-être même ces dernières heures, il y a une vidéo qui est un petit peu virale sur les championnats du monde paralympique à Glasgow. Et on voit un mec récupérer son trophée. Il a que les deux moignons pour récupérer son trophée. Et c'est quand même admirable de continuer à se battre et à continuer à maintenir une activité physique en ayant ce type de handicap. Donc Marie, au moins, malgré ton âge, ça te fait une reconversion toute trouvée, tu vois. C'est déjà pas si mal. Quand le bikepacking sera discipline olympique, tu vois.
Mm-hmm. Non, le problème, c'est que...
C'est que les fesses et les pieds, toi, t'avais déjà... Ouais,
c'est
sort ta connerie.
Non,
vas-y,
c'est pas
après,
une connerie.
On parle sérieusement.
On en parle de ça depuis 2018. Ces problèmes, on a fait des débats... en interne en Bretagne, lorsqu'on a diffusé les films, notamment de la C2Peak et puis de la Gravel Trop Race. Et le problème, c'est que c'est le nerf qui s'atrophie. Et au-delà d'un certain... Alors, Marie va pouvoir me dire si je me trompe pas, parce que je suis pas du tout médecin. Le nerf va s'atrophier. Et au bout d'un moment, il se régénère plus. Donc, tu perds complètement... Tu peux arriver à perdre complètement la sensibilité pour la vie, quoi. Donc, le mieux, c'est en fait, c'est d'arrêter le vélo, quoi. C'est d'arrêter pendant quelques temps le vélo, plus solliciter les mains. Et c'est sinon tu, il y en a qui.
Tu fais du home trainer.
Ouais.
Tu fais du home trainer ou. Mais c'est un vrai problème dans la vie de tous les jours puisque tu n'arrives plus à saisir des petits objets. Donc pour des gens comme Marie ou. Qui ont besoin de leurs mains pour travailler. L'année dernière, à C2Peak, il y a un chirurgien dentiste qui s'est arrêté tout de suite parce qu'il a dit « Je perds la sensibilité de mes mains, c'est mon boulot, je joue pas avec ça. » quoi. Donc, vous me dites si ça fait mal.
Non, t'imagines que... En plus, j'allais dire une connerie. J'allais dire à Marie, maintenant, elle tremble quand elle doit faire un vaccin à un petit vieux. Elle tremble, ça craint. Mais en fait, non, c'est vrai, quoi.
Faut penser à nous.
Non, mais je suis pas chirurgien non plus.
Bon. Marie, les pieds et les fesses, c'était pas un problème parce que déjà, t'as la gravienne, t'as la spider, t'as la GTB pour avoir réglé ces problèmes. Mais toi aussi, au-delà de la position sur ton vélo et de l'optimisation de la position, et notamment de la position dans ce sens-là, mais également comme ça de tes poignets pour limiter la compression, c'est aussi la crispation au pilotage pour toi.
Ouais.
C'est que t'as découvert à ta grande surprise que tu sais pas piloter en VTT et évidemment que tu t'es crispé de folie dans les sections. Donc c'est aussi un axe de progression, apprendre à être beaucoup plus relâché et pas se crisper sur son guidon, mais au contraire quand on peut juste, voilà quoi. Et je pense que Cécile pourrait en parler largement mieux, mais s'accrocher à son guidon désespérément, c'est une très mauvaise idée.
Ouais, ça peut créer effectivement pas mal de douleurs. Alors je sais pas dans le poignet, mais en tout cas dans les avant-bras, c'est sûr. Alors moi, je suis un mauvais exemple là-dessus, c'est que j'ai pas du tout ressenti ces douleurs-là. J'en ai eu d'autres, hein, vous inquiétez pas. Mais pas celle-là, un poil au début, sur les 3-4 premiers jours, dans les mains où il a fallu un peu libérer un peu les mains. Mais non, pas de douleur et puis pas du tout de perte de sensibilité. Pourtant, je suis mauvaise élève, hein, j'ai un guidon
Cécile,
plat.
Cécile, je te laisse continuer. Moi, j'ai une livraison qui vient d'arriver. Je te laisse continuer. Si je suis en retard, tu continues et après, vous parlez des endroits, tu enchaînes sur les endroits qui t'ont le plus plu sur le parcours.
Genre, il n'a pas parlé de son cul.
Ok. Ben moi en plus.
Pas le poète. Vas-y, continue.
Du coup, en plus, mauvais élève, hein, mon guidon, il est classique. C'est un guidon tout à fait ordinaire, sans poignée ergonomique, sans rien du tout. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué. Ben écoute, de la chance. La chance que ça m'ait rien fait du tout. J'ai même pas vraiment changé de position sur le guidon, ou alors je relâchais un peu, mais ça m'a rien fait. Bah, du coup, c'est Jean qui doit parler de ses fourmillements maintenant.
J'ai eu quelques fourmillements, mais pas grand-chose. Simplement aux mains, parce que j'étais un peu en rigide, mais ça rejoint ce que disait Richard. Par contre, la technique de pilotage, notamment en descente en full rigide, elle est vraiment différente. On peut pas laisser la fourche travailler, on peut pas se crisper en essayant de déclencher la suspension à l'avant, il faut absolument faire l'inverse, c'est se poser vraiment sur les pieds en danseuse et puis tenir le guidon en limite avec l'index et le pouce, quoi. Ça, c'était ma technique pour les descentes un peu cassantes. C'est qu'au final, j'avais plus d'appui sur la paume de la main. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on laisse le vélo travailler un peu pour nous. Mais en fait, on lâche jamais le guidon, il n'y a pas de risque de chute. Mais je pense que c'est ce qui m'a permis de me sauver sur ce tracé-là. Et la deuxième chose, c'est que je roule très très bas en pression. Alors, je suis à l'inverse de toi, Cécile, je mets pas 2,5 bars dans mes pneus. Là, j'étais donc je fais un peu plus de 75 kg et j'étais avec des pneus de 55. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à 1,5 bar à l'arrière et 1 bar à l'avant. Donc c'est très très faible. Donc l'ennemi de ce truc-là, c'est qu'il faut pas taper et déchirer les pneus. Mais bon, en tubeless, on y arrive sans trop de problèmes. Disons qu'on peut taper la jante jusqu'à un certain niveau et après on commence à mocher les pneus, mais ça se fait. Donc effectivement, quand on est en full rigide, faire très très attention à faire les descentes doucement, en tout cas beaucoup plus doucement que d'habitude. Je me suis pris 2-3 sanctions, mais au final les mains, pas grand chose. J'ai très légère perte de sensibilité, mais là ça fait 3 semaines, ça m'arrive de ressentir encore une petite différence, et plutôt au niveau sensation. Les fesses, pas trop de problèmes, et les tendons d'Achille, pas trop de problèmes. Parce que je commence à avoir l'expérience, les bons réglages, les cales effectivement plutôt vers l'arrière, et puis les tendons d'Achille qui savent à peu près ce qui va se passer. Donc je pense que les tendons, ils sont un peu gainés plus qu'à mes débuts. Et la charge, pas d'entraînement, mais la charge, le volume de selle d'un coup, faire des sorties de 15 heures ou de 20 heures avant s'attaquer à ce genre d'épreuve, c'est quand même aussi pas mal pour le châssis, pour le squelette, pour les tendons, parce que c'est quelque chose dont le corps n'est pas du tout préparé quand on se lance pour 10-15 jours. En général, on tient, enfin, je pense que Fred pourra confirmer avec l'expérience sur les épreuves, mais en général, la casse, elle arrive à 3e, 4e jour, où avec la déshydratation et la charge d'effort, les ligaments et les tendons, ils dégagent parce qu'ils sont pas du tout, ils sont pas du tout habitués, quoi.
Ouais, sur une épreuve d'une semaine sur la gravelle.
Alors, t'as tout entendu, Richard, tu vas pouvoir faire un résumé.
Et pareil, après
non,
une semaine.
Non, j'avais enlevé mon casque. Pareil. En plus,
pour en les problèmes
c'était pas,
articulaires.
C'était pas une livraison, en plus, c'était pour donner des.
C'était moins de jobs. Pour les problèmes d'articulation.
Presque.
Pour les problèmes d'articulation, alors, on peut ne pas le croire ou pas, mais faire des cures de collagène. Même toute l'année, et franchement, ça améliore grandement les problèmes articulaires. Moi, ça fait un an que je J'ai pas délaissé le vélo, mais j'en fais un petit peu moins. Et je fais un sport qui sollicite un petit peu plus les articulations et les muscles. Et je fais des cures de collagène. Et ouais, c'est ça. C'est non, je fais du. Ça fait un an que je fais du CrossFit, comme ça peut se voir. Vous avez vu mon physique d'athlète, voilà. Et c'est vrai que ça améliore franchement les douleurs. Même quand je faisais du vélo, j'avais toujours, après des longues distances, des problèmes d'articulation, de genoux, de douleurs. Tous les soirs, lors d'une épreuve longue, il fallait que je me masse un petit peu. Et depuis que je fais ces cures de collagène, j'en prends tout le temps, en fait. J'ai plus de problèmes d'articulation, alors que le CrossFit sollicite quand même pas mal les articulations, même si, justement, le renforcement fait que tes tendons sont mieux soutenus, mieux maintenus, et tu as moins de problèmes d'articulation. Voilà. C'est un très 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 bon sport, le CrossFit. Très complémentaire du vélo. Voilà, petit aparté. Mais je continue à faire du vélo, hein, rassurez-vous. Hein.
Est-ce que vous avez parlé de vos lieux favoris ? Alors, je vais vous dire un truc. J'ai encore 6 minutes à vous consacrer parce qu'à 18h, j'enchaîne avec Florian Moreau, qui vient de faire 6e de la TCR. Donc, Marie, ton endroit, tes lieux phares pendant la Citoupic.
Le plomb du Cantal, en numéro 1. Au coucher du soleil, c'était extraordinaire. La traversée de l'Aubrac, que moi j'ai fait sous le soleil, c'était magnifique aussi. Et puis après, bah, le final, hein, à partir du moment où on traverse la Drôme jusqu'aux Hautes-Alpes, ouais, c'est top aussi, quoi. L'Ardèche, je l'ai fait un peu sous la pluie. C'était moyen.
Cécile ?
Ouais, je vais rejoindre Marie, hein, pas beaucoup de surprises. En un, pour moi, c'est l'Aubrac. Vraiment grosse découverte parce que c'est l'endroit que je connaissais le moins, finalement, de la trace. Et là, j'étais vraiment hallucinée parce qu'effectivement, en plus, c'est long. C'est que pendant 100, 150 kilomètres, on a presque... on a presque aucun village où, et puis on est sur ces étendues vraiment vastes, et puis ouais, vraiment étonné de ce passage-là. Donc pour moi, c'est le mieux de la Citoupic. Le reste, je le connais un petit peu, la Drôme, l'Ardèche et même les Hautes-Alpes. Très beau, mais je connaissais. Donc pour moi, c'est l'Aubrac.
Jean ?
Pareil, Aubrac et Margeride, que je connaissais pas du tout, qui est juste après sur la trace. Mais grosso modo, à partir du nord de Limoges, plateau des Mille Vaches, Creuse, chaîne des Puits, Cantal, Aubrac, Margeride. Après, la vallée du Rhône est un peu moins sexy. Il y a une cinquantaine de kilomètres qui est un peu en flottement. Après, la vallée du Diwa où on se fait caillasser par le soleil. Faut vraiment se méfier dans ce coin-là. Ça tape très très fort. En tout cas, là, quand on est passé, il faisait 37-38 au GPS, c'est un coup à faire du sirop, c'est un peu compliqué. Et puis après les Alpes, on est tous aussi venus pour les voir. Donc, mais en gros, à partir de Limoges, c'est une succession de paysages vraiment superbes, quasiment jusqu'à la fin. Pour moi, c'était vraiment la grosse motivation pour faire cette épreuve, cette trace. Et j'ai pas été déçu, quoi. Bon, j'en ai voulu à Fred à quelques moments où c'était certainement parce que j'étais un peu juste mentalement et physiquement. Tu m'excuseras, Fred, j'ai dû te maudire dans certains
c'est de normal, mes... on aime ça.
Dans certains de mes commentaires, mais c'est de bonne guerre. C'est aussi pour ça que tu fais ça, c'est pour te faire insulter,
ouais,
je pense, c'est ton petit côté.
Exactement, ouais, exactement. On fait ça pour ça. Pour
et, se faire mais insulter. Sinon, ouais, c'était vraiment un super taf, une super trace, quand même assez peu de sections. Où on était envoyé à l'abattoir, où on se retrouvait avec des ronciers et des passages impossibles. C'était quand même relativement roulant tout du long. Et c'est une super trace, vraiment super trace.
Fais attention quand tu dis roulant, parce que certains vont venir en gravel. C'est pas une trace gravel au sens où... voilà, je préfère prévenir. Parce qu'on retrouve la Citoupic présentée sur des calendriers en mode gravel, mais c'est pas du tout gravel. C'est du bikepacking tout terrain, donc on peut venir avec un gravel si on veut, on peut venir avec un VTT ou avec un Monster Cross, mais effectivement, il faut plus s'orienter vers la grosse section. C'est important de le savoir. Et voilà. Et effectivement, les traces, je les travaille au
Fred, on en
maximum.
a déjà.
Ouais. Excuse-moi. Ouais, les traces, je les travaille au
Non,
maximum pour revenir.
on en avait déjà parlé.
Ouais.
Avec le décalage, on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Allez, vas-y, Fred, vas-y.
Je dis oui, les traces, je les travaille au maximum. C'est beaucoup de travail sur les cartes. Et après, quand je fais une reconnaissance, quand je fais 100 km de traces, j'en fais 50 de plus, parce que tu fais des allers-retours, tu regardes. Comme je dis, j'ai une bonne mémoire du terrain. Donc quand j'arrive sur un endroit, je sais que si je prends ce chemin-là, bah, avec les courbes de niveau, je vais m'élever. Donc je vais sûrement trouver un paysage un peu plus beau. Ou alors, voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de travail. C'est pour ça que ouais, je tiens à ce que les traces, en fait, c'est ce qui le 50% du de enfin de la réussite de l'épreuve, c'est la trace. Et après, c'est les participants. Voilà. Après, l'organisation à côté, oui, c'est important, mais faut vraiment une belle trace. Et il faut que les participants aient un bon esprit. Et cette année, sous cette troisième édition, il y avait vraiment que des gens avec un bon esprit qui ont fait que bah, c'était un bon succès. Il y a peu de participants, malheureusement, sur la Citoupique. J'aimerais en avoir une vingtaine, une trentaine de plus. Mais c'est toujours de la qualité. Voilà.
Putain, il a plombé
J'ai plombé
l'ambiance pour la
l'ambiance.
quatrième fois de l'après-midi.
J'avais des blagues, si vous voulez.
Ben non, mais bon. Ben non, mais bon, n'empêche que c'est. Enfin, y a plein de trucs à dire sur ce que tu viens de dénoncer, mais il y a la passion. Que bah, tu t'investis, comme tu l'as dit, depuis 2018 sur la Gravel Trop Bresse, puis la Citoupique, puis les Gravel
GTB
Trop
Series,
Series, je ne
GTB
sais plus le nom
Series,
précisément. Que. Voilà, les GTB Series. En septembre, il y a un autre truc en Bretagne, un 700 km, je crois, de mémoire. J'ai appris que le docteur
En
Macken allait y
octobre, ouais,
aller.
en octobre, je rechignais un peu
Ouais,
à
oui,
faire de la
fin
route.
septembre, ouais, fin
Ouais,
septembre.
je rechignais à
Ouais.
venir sur la route, mais il y a des routes tellement
Bah,
magnifiques.
surtout en Bretagne.
Ouais, il y a des routes tellement magnifiques en Bretagne que voilà, je propose une épreuve de route. Donc c'est toujours du bikepacking, puisque le bikepacking n'est pas lié au gravel. Ça, je sais que vous le savez, mais les gens qui t'écoutent des fois, voilà. Gravel égale pas bikepacking. On peut faire du bikepacking avec un vélo tout-terrain, avec un gravel, avec un vélo pliant. Voilà. Donc c'est une épreuve de route, bikepacking, où tu vas tracer toi-même, comme on peut en voir un peu partout, comme la TCR, comme la Desertus Bikus. C'est toi qui trace ton parcours entre les différents points, entre les différentes CP. Voilà. Et j'ai encore une autre épreuve en tête. Deux Pyrénéens qui ont participé à la Citoupi qui m'ont un peu enjaillé. À voir comment on peut caser ça dans ma vie professionnelle, puisque c'est pas Herminique, c'est pas mon activité professionnelle. C'est bah, vraiment à côté. Et ma vie personnelle, mais j'aimerais beaucoup que cette épreuve voie le jour. Ça serait un condensé du meilleur de la Citoupi, en fait, mais sur une autre région. Voilà, ça, j'en dis pas plus. Et voilà.
Ah, il est 18 h chez Cécile.
La trace passera
Bien.
vraisemblablement en Bretagne l'année
Moi, je vais.
prochaine. T'as vu comme je fais de la pub pour l'année
Où
prochaine?
ça?
En Bretagne.
C'est
Ça
clair.
risque de
Non, mais
changer
de
la fin
toute
du
façon,
parcours.
tiens, on est à une heure et demie
Je le
d'épisode.
travaille chaque année. Donc
Maintenant,
l'année
je peux le
prochaine, ça
dire, mais
sera
en.
encore plus beau. Jean sera obligé de revenir parce que Sam sera là aussi. Non, Sam, il ne viendra pas. Il veut pas, il a peur. On lui met la pression comme ça.
Il attend son invitation.
Eh ben, on doit se voir en septembre pour
Bien.
discuter de choses et d'autres. Et il est cordialement invité, il sera cordialement invité. Voilà. L'année prochaine, vous viendrez en masse sur la Citoupique. Et Richard est cordialement
Je vais
invité
devoir
sur la
vous
Gravel Trop
abandonner.
Bresse.
Alors, je vais terminer par. Ouais, c'est ça mon
Ça
cul.
fait
Ouais. Alors là,
quatre
je vais
ans
dire
que
le jour où tu vas me voir faire la gravel trop
Mais
braise.
non, mais pas pour la faire, pour venir faire l'animation avec tes petites bandes son là. Ça serait magnifique.
Avec ça?
Qu'est-ce qu'il.
Attends.
Ah.
Ah non, je peux.
Là, tu maîtrises pas encore l'objet.
Non, il faut que je peaufine un petit peu mes effets là. Mais cela dit, moi, je vais devoir vous abandonner quand même, parce que Florian va m'attendre et j'aimerais quand même terminer par une note de bonne humeur. Fred, je sais que tu aimes les petits chats,
oui,
et
les
mes enfants
chats
m'ont ramené une tasse de noirmoutier.
C'est magnifique.
Donc on cultive quand même une sorte de mauvais goût.
C'est magnifique.
Ils savent que j'aime les trucs un peu moches et là, j'avoue qu'ils se sont quand même bien surpassés.
C'est pas du mauvais goût, c'est magnifique.
Voilà. Donc moi, voilà, si j'avais un seul message. Si j'avais un truc à vous dire, ça serait ça. Grosse bise de l'île de Noirmoutier. Donc là, pareil, hein, le jour où tu me verras à Noirmoutier, je peux te dire que le réchauffement climatique aura fait un sacré bond en avant. Mais par contre, si tu fais une épreuve dans la Creuse ou dans le Limousin, tu peux déjà me compter parmi les participants parce que ce sont probablement mes endroits favoris en France.
L'épreuve pour l'année prochaine ou
voilà. Il est
inarrêtable. Ouais, je suis inarrêtable.
Je vous laisse pour votre minute de solitude. Moi, je vais aller me faire un café. Et voilà. Quand vous avez terminé, vous fermez la caméra, vous fermez le micro, mais vous n'éteignez pas votre appareil électronique mobile. C'est tout ce que je vous demande. Et je vous enverrai un message pour vous dire c'est bon. Parce qu'il faut le temps que les fichiers soient téléchargés sur les trucs. Donc, quand vous avez terminé,
vous pouvez partir, c'est ça ?
Vous restez. Mais voilà.
On fait partir.
En attendant,
non.
Merci beaucoup. Cécile, merci beaucoup. Non, vous pouvez partir, mais
oui,
vous restez, vous laissez l'ordi
laisse
ou le téléphone.
Avec le fond,
Cécile, ouais. Merci beaucoup. Bravo. Putain, mais tu vas fermer ta gueule.
J'ai rien dit, là. J'ai rien dit. C'est le décalage
horaire. Cécile, merci beaucoup. À très ta gueule. Fred, ferme ta gueule. Cécile, merci beaucoup, à très bientôt et on verra peut-être faire un épisode ensemble pour rediscuter de tous ces trucs-là et à voir quoi. Jean, encore une fois, merci comme d'habitude, bravo pour la balade. Je pense que sur la fin de ta carrière bikepacking, tu ne leurres que toi, tu te mens à toi-même, je pense que c'est évident, donc je te dis à bientôt.
Il va venir faire la Mountain Race avec
et moi. Marie, a dans la semaine au téléphone. Hein. Bah, oui, ça te tend les bras, hein. Franchement. Et Marie, je te dis à dans quelques jours au téléphone et tu me diras comment s'est passée la séance tempo. À gros bisous, je vous laisse. Merci.
Bon, Fred, c'est toi qui commences ou on lui pourrit sa minute de solitude? Comment ça se passe? Fred a disparu. Bon, merveilleux.
Fred a disparu.
Bon. Bah, félicitations à vous pour avoir terminé, en tout cas.
Il nous a abandonné.
On va terminer sur cette bonne note.
Oui, c'est clair.
Et puis bravo aussi à tous ceux qui
ont fait. Merci à Fred d'organiser ça.
Et que, et que tu vois et que tu croises et qui galèrent et tu te dis qu'ils dorment deux fois moins, qu'ils roulent avec des vélos deux fois plus lourds ou autre. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de gens super courageux sur ce parcours.
Ouais, et puis des belles rencontres.
Bon courage à tout le monde.
Merci, toi aussi.
Et bonne récup.
Ouais, c'est clair.
Ouais. Bah, revoilà, Richard.
Et on a. Plaisir de se recroiser.
Ah ouais, non. Je me suis fait un café en vous.
On a perdu Fred, il a dû raccrocher, donc je sais pas si ton épisode va fonctionner.
Non, mais je suis allé me faire un café. Et je vous ai écouté. Ah bah c'était bien. Hein. Ah bah puis bravo. Hein.
On en a marre de ton, exercice de la minute de solitude.
Ah puis on fait. Mais arrête, vous adorez ça. Parce que c'est le meilleur moment des épisodes.
On en veut plus de solitude. C'est fini, la solitude, c'est plus à la mode.
Et bah alors voilà. Écoute le conseil de Marie. On fait que des belles rencontres. Et voilà. Donc Herminig bientôt. Créateur de rencontres charnelles autour d'une sacoche. Et voilà, tu te sens seul sur ton vélo. Voilà.
Ouais, suis-toi la bouche, suis-toi la bouche au lieu de s'arriver.
Ah ouais, bah ouais. Franchement, dans ma situation, une rencontre sacoche, c'est exactement ce que j'ai besoin. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vous laisse, Florian m'appelle.
Florian Matan, donc merci encore et à très très bientôt tous. Cécile,
merci
bon séjour dans la Drôme. Marie et Jean, à très bientôt. Merci beaucoup. Restez allumés, hein. Je coupe l'enregistrement.
Ça roule.